À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mardi 8 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Dans notre brief d'info business du jour, nous vous parlons de la mobilisation au niveau national du secteur de la tech contre son exclusion du régime des droits d'auteur. Sinon, que représente la nouvelle version du tarif social télécom ? C'est ce que vous découvrirez dans quelques instants. Je suis Semchim Courrier et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
Et on commence notre brief du jour avec l'inquiétude, je vous le disais, dans le secteur de la tech. À quel propos ? Eh bien, de la réforme des droits d'auteur qui pourrait priver les développeurs de logiciels en particulier d'un avantage fiscal. Des discussions doivent encore avoir lieu dans quelques jours en Conseil des ministres au sein du gouvernement fédéral pour apporter les dernières retouches à la loi programme. Du coup, les acteurs du secteur de la tech se mobilisent et ils interpellent le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, à travers une pétition aujourd'hui. Parmi eux, eh bien, il y a Sébastien Deletaille, CEO de Rosa, actif dans le domaine des apps dédiées à la santé.
Pour nous, il s'agit de tirer une sonnette d'alarme parce qu'une telle exclusion aurait un effet immédiat et extrêmement néfaste sur les emplois dans ce secteur de la tech, dans ce secteur naissant et dans ce secteur qui est en concurrence mondialisée. Ça voudrait dire que les employés perdraient entre 200 et 600 euros net par mois en augmentation d'impôts. Actuellement, la Belgique a environ 21 000 postes ouverts dans ce domaine et on est en concurrence directe avec des pays qui rémunèrent mieux, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Suisse. Et donc, notre cri d'alerte, c'est de dire « faites attention, cette réforme va avoir un énorme impact sur l'ensemble du secteur. On parle en front uni à travers l'ensemble de la scène tech, qu'elle soit flamande ou qu'elle soit francophone, pour bien montrer qu'il est essentiel pour nous de continuer à bénéficier de ce régime. »
Et attention, de grands noms du secteur ont déjà signé cette pétition, rejoints par des parrains plutôt prestigieux.
Parmi les plus grandes success stories belges, on retrouve des parrains de cette pétition, et en l'occurrence des personnes comme Fabien Pinkars, le fondateur d'Odoo, Louis Jonker, le fondateur de Chopad, Yann Hollé, le cofondateur de Deliverect, avec lesquels toute une série d'autres fleurons de la tech belge, que ce soit Cover, que ce soit Cowboy, Aerospace Lab, Bicentral, Rosa et bien d'autres, vont participer à cette pétition et la diffuser à travers l'écosystème.
Nous sommes à la veille de la grande mobilisation nationale de ce mercredi 9 novembre et je vous préviens déjà, il risque d'y avoir pas mal de perturbations dans les secteurs comme les transports et les écoles. Et donc vous l'aurez compris, patronat et syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Hier, ils s'étaient réunis au sein du groupe des 10 pour essayer d'accorder leur violon sur le dossier épineux de l'accord interprofessionnel, l'évolution des salaires et sur l'enveloppe bien-être qui revalorise pensions et allocations sociales. C'est alors au gouvernement de trancher. Concernant l'enveloppe bien-être, il va devoir la répartir car il s'est engagé à allouer cette enveloppe à 100%. On parle d'un milliard d'euros par an pour ces deux prochaines années. L'autre volet, qui est beaucoup plus clivant, porte sur la marge salariale. Le gouvernement peut à nouveau insister auprès des interlocuteurs sociaux pour qu'ils se réunissent à nouveau pour tenter de trouver une issue à leur discussion. Selon la loi de 1996, ils ont jusqu'à 2 mois pour se mettre d'accord à compter de la date de remise officielle du rapport du Conseil central de l'économie qui est prévu aujourd'hui. Tic-tac, tic-tac. Voilà enfin la nouvelle version du tarif social télécom. Il était temps. 40 ans après ses débuts et après des mois de négociations, le gouvernement a trouvé un accord avec les opérateurs du secteur. D'ici un peu plus d'un an, ils devront proposer un abonnement Internet à 19 euros par mois pour les ménages les plus modestes. Et Telenet, vous et Proximus devront s'y conformer. Ils devront proposer un débit minimal ainsi qu'un volume minimum de données qui devrait suffire pour permettre d'effectuer des conférences vidéo si nécessaire. C'est ce qu'explique la ministre des Télécoms, Petra de Sutter. Un second tarif social, à 40 euros, proposera une offre Internet et télévisée. Une lettre sera envoyée à tous les potentiels bénéficiaires. Le gouvernement estime qu'ils sont 600 000. Les États-Unis sont-ils à nouveau sur le point de basculer vers le camp républicain ? Eh bien, c'est tout à fait possible. L'enjeu de ces élections de mi-mandat qui ont lieu aujourd'hui, c'est entre autres de choisir les parlementaires qui siégeront à la Chambre des représentants, mais aussi certains sénateurs. Et les démocrates ne sont absolument pas sûrs de gagner la partie. Le président Joe Biden a essayé de mobiliser ses troupes hier aux portes de Washington, dans le Maryland.
And there's nothing. Nothing, nothing, nothing beyond our capacity if we do it together. So vote! Get out the vote!
Tandis que Donald Trump chauffait ses partisans dans l'Ohio, un état très disputé, laissant entendre très clairement qu'il allait revenir. L'ex-agitateur de la Maison-Blanche va-t-il pouvoir se lancer dans la course à la présidentielle 2024 à l'issue de ses midterms? Alan Harings, vous signez l'édito d'aujourd'hui. En quoi la perspective du retour des républicains au pouvoir n'est guère réjouissante?
Alors, il faut tout d'abord rappeler que c'est le premier scrutin depuis le 6 janvier 2021. C'est la tentative de coup d'État orchestrée par Donald Trump et ses partisans. C'est l'assaut du Capitole. Hein. Or, depuis lors, les signaux envoyés par le camp républicain sont inquiétants. Je vais donner quelques exemples. Tout d'abord, le Washington Post avait publié il y a quelque temps une enquête montrant que une majorité des candidats républicains défend toujours la thèse, pourtant maintes fois démontée, d'une élection présidentielle 2020 volée. Il y a des dizaines de postulants républicains toujours qui ont refusé de s'engager à reconnaître le résultat de cette élection de mi-mandat s'il leur est défavorable. Il y a aussi plusieurs attaques contre le système de vote lui-même, par exemple, des attaques contre le vote par correspondance qui est traditionnellement bénéfique aux démocrates. Voilà plusieurs indices qui montrent vraiment que la démocratie américaine est encore fragile. Il y en a encore d'autres. Il y a plus de 10 000 menaces qui ont été recensées contre des élus du Congrès pour la seule année 2021. Cela montre qu'il y a un fond de violence politique qui reste à Washington.
À Atlanta, en Géorgie, les tensions communautaires ont augmenté avec la pandémie. Aujourd'hui, deux mondes s'ignorent, celui des grands bureaux aisés et celui des sans-abri qui peuplent les rues du centre-ville le soir venu. Vous pouvez retrouver ce reportage aujourd'hui dans les pages de l'Écho. Maxence Dozin, c'est vous qui êtes allé sur place et qui avez écrit ce reportage. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Que ressent-on sur le terrain à la veille de ces élections ?
On a vraiment affaire à deux visions de la société qui s'opposent de plus en plus sur effectivement toute une série de sujets clés, l'avortement, l'immigration, l'austérité budgétaire. De un, les midterms sont généralement l'occasion d'un vote sanction pour le pouvoir en place, parce que donc, grosso modo, les gens sont jamais contents. Et la deuxième chose, c'est que les équipes de Biden savent très bien que à partir du moment où l'économie ne fonctionne pas trop bien, en tout cas au niveau de la hausse des prix, ils doivent porter l'attention du public sur d'autres sujets. Les démocrates se présentent évidemment comme défenseurs des droits à l'IVG, et ils tentent de courtiser un segment de la population qui est un segment très très convoité. Ce sont les femmes, middle class, et ce qu'on appelle aux États-Unis suburban. Donc ce sont des gens qui vivent dans des banlieues de grandes villes et qui historiquement sont un segment qui est relativement indécis.
Prenons à présent des nouvelles des deux usines liégeoises de Liberty Steel. Leur sort n'est pas encore scellé, il faudra attendre la décision du tribunal de l'entreprise de la Cité Ardente dans une semaine, le 15 novembre prochain, pour savoir de quoi sera fait leur avenir. En fait, l'unité de galvanisation de Tilleur et celle d'emballage en fer blanc de Flémal pourraient être vendues sans attendre le bon vouloir de l'actionnaire, c'est-à-dire le groupe fondé par Sanjeev Gupta, si la justice décide de lancer une procédure en réorganisation judiciaire par transfert. Le dossier, qui traîne depuis le rachat en 2018, serait confié à la société Liberty Liège du Delange, qui regroupe les ex-entités d'ArcelorMittal à Liège. L'affaire, bon, vous l'avez compris, elle est complexe. L'actuel actionnaire semble vouloir liquider ses activités en revendant ses quotas d'émissions de CO2 et le bâtiment du siège de sa filiale à Flémal. Environ 650 personnes sont employées sur les deux sites. En ces temps de crise, la période, elle est particulièrement compliquée pour le prêt-à-porter milieu de gamme. Enseigne emblématique et historique avec ses 181 ans d'existence, la chaîne néerlandaise CA se voit contrainte de resserrer les boulons. En difficulté sur le marché belge, elle s'apprête à fermer 8 magasins, dont 2 en Wallonie, comme celui de Mons, et il y en a à 70 dans notre pays. À ce stade, le climat social reste plutôt serein. L'entreprise n'a pas envoyé de signaux inquiétants, aucune restructuration n'est prévue et la communication faite au personnel est transparente. Un plan de reclassement dans l'entreprise est proposé au personnel concerné. L'enseigne est en pleine mutation, elle veut changer de stratégie d'ici 2 ans. Elle ambitionne de générer la moitié de son chiffre d'affaires en ligne, contre 20% environ actuellement. À présent, si vous avez le goût de l'aventure et le pied marin, je vous emmène découvrir une course mythique. Elle est sans doute la plus réputée des traversées transatlantiques, mais elle est courte, à peine 10 jours pour les plus rapides. Bienvenue sur la route du Rhum, dont le départ sera donné demain après-midi en Bretagne à Saint-Malo, où 138 bateaux sont en course pour rejoindre les Antilles et la Guadeloupe. L'Écho consacre une série à cet événement parce que cette année, vous allez l'entendre, les innovations brillent par leur sophistication sur les voiliers, plus encore qu'il y a 4 ans lors de l'édition précédente. Cette série, elle est réalisée par Marie-Amélie Lénartz, navigatrice belge et journaliste spécialisée dans les enjeux des océans. Pour son premier portrait, elle nous parle de Roland Jourdain, qui prend le départ de la route du Rhum.
Roland Jourdain, on va dire que c'est encore le marin à l'ancienne. Hein. Et il n'a pas spécialement de profil d'ingénieur, mais ça fait des années qu'il construit en fait des bateaux et qu'il s'intéresse aux matériaux. Et puis ça fait un peu plus de 10 ans qu'il s'intéresse aux biomatériaux, puisque lui, il cherche vraiment à remplacer la fibre de verre ou la fibre de carbone qu'on trouve souvent sur le bateau de course par de la fibre végétale comme le lin. Donc, Roland Jourdain, il prendra le départ demain de la route de Rhum sur un catamaran qui est construit à 50% en fibre de lin. Et c'est la première fois, en fait, qu'un bateau de course si grand est constitué en lin. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer que c'est possible, hein, de traverser l'Atlantique avec 1 hectare de lin. En fait, c'est là tout l'enjeu et toute la discussion qui est en train d'avoir lieu au sein de la course au large. Non, c'est pas possible d'aller aussi vite que des grands trimarans qui sont faits avec des matériaux très légers et très résistants comme le carbone. C'est ce que dit Roland Jourdain. Il faut repenser cette notion de performance. La performance sportive, c'est pas spécialement aller le plus vite. On pourrait aussi se dire que la performance environnementale fait aussi partie du jeu et que, en fait, on pourrait être coté ou être le plus rapide tout en respectant des contraintes environnementales.
Mais il n'y a pas que Roland Jourdain qui fait preuve d'innovation sur son voilier, d'autres navigateurs aussi, et leurs idées intéressent de plus en plus le secteur du transport maritime.
On assiste vraiment à une évolution de la course au large avec des concepts, des innovations qui intéressent les industriels. Une des personnes qu'on rencontre dans la série, c'est François Gabart, qui prendra le départ sur un trimaran géant qui arrive à traverser l'océan en 7 jours, donc ça va très très vite. Et lui, depuis toujours, il développe, assez rapidement, il a commencé à innover les foils. Et il travaille aujourd'hui, par exemple, sur des ferries à foils qui vont transporter des passagers très rapidement pour pouvoir remplacer le transport dans des zones urbaines, par exemple.
Ça donne envie de voyager, hein? Vous venez d'écouter les 7 infos du Brief. Guillaume Cordeau était à la production de cet épisode. Je vous retrouve demain. Passez une excellente journée.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière, pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.